Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hangs. Mama Hangs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion, aka le micromodal, qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur, et ce, en restant au sec. Tout ça veut dire que si, comme moi, tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé tète de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini. Le petit nouveau de la collection, c'est le body, qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Ici, on ne se passera plus de ces produits top quali, beaux et confortables. Alors merci Mama Hangs de soutenir le podcast depuis si longtemps. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site mama-hangs.com et avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple. Offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Suite à l'épisode 94 où Sophie nous raconte son expérience d'allaitement avec ses jumelles, voici l'épisode expert qui va vous donner tous les tips pour vous orienter dans cette aventure. On retrouve aujourd'hui Céline Bourganeuf, qui est consultante en lactation IBCLC et que j'avais déjà choisie de par son expérience en néonatologie pour vous parler de prématurité dans l'épisode 50. Aujourd'hui, elle va donc vous dire tout ce que vous devez savoir sur l'allaitement des multiples, jumeaux, triplés et plus, si affinité. Comment cela se met en place, comment je m'y prends, de quoi j'ai besoin. Un seul mot d'ordre, le confort, à tout niveau de la maman pour que l'aventure puisse se dérouler sereinement. Aucune notion de performance et on prend soin de soi, on s'entoure pour pouvoir s'occuper de ces multiples merveilles qui viennent de débouler dans notre vie. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Céline, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous.
Céline, on se retrouve encore une fois pour un épisode expert avec toi. Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'allaitement des multiples. Alors voilà, tout au long de l'épisode, on va facilement utiliser le terme jumeau, mais considérer que ça s'adapte aussi à l'allaitement de plus que des jumeaux. C'est quand même moins fréquent, mais voilà, si c'est votre cas et que vous vous préparez à un allaitement où vous êtes dedans, quand Céline dit jumeau, entendez triplé, si ce n'est que vous n'avez que deux seins et qu'il faudra nécessairement que quelqu'un attende fasse la queue pour pouvoir manger. La première question que j'ai envie de te poser, Céline, je veux bien que tu te représentes, parce que ça fait longtemps quand même que tu n'étais pas venue dans Meatshaker. Alors, si tu peux en deux secondes te représenter pour les gens qui nous écoutent.
Alors, présentation, je suis puéricultrice. J'ai travaillé plus de 10 ans en néonatologie et je suis consultante en lactation depuis 2015. Je suis également spécialisée sur la diversification alimentaire, le sommeil et les troubles de succion du nouveau-né. Je suis présidente de l'association Mum Mood, le salon européen de l'allaitement maternel, et je suis nouvellement présidente de l'AFCL, l'association des consultantes en lactation de France. Je travaille à mon cabinet à Nice et je fais aussi pas mal de consultations en visio et je forme aussi dans les hôpitaux pour une harmonie des pratiques, mais aussi des formations que je fais moi en ligne sur le niveau 1 et niveau 2 de l'allaitement maternel.
Parfait. Alors, Céline, je t'ai demandé à toi de venir nous parler de l'allaitement des multiples parce que comme tu as pas mal d'expérience, en particulier en néonat, tu en as vu pas mal des enfants multiples. La première question que j'avais envie de te poser, c'est déjà, est-ce que sur le papier, toutes les femmes peuvent allaiter des multiples, des jumeaux, des triplés et plus si affinité en termes de quantité de lait? Donc je veux bien qu'on fasse le distinguo entre les femmes qui ont éventuellement une pathologie mammaire, dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, des problèmes hormonaux, des insuffisances de tissu glandulaire, des hypoplasies mammaires. Voilà, je vous invite à réécouter ces épisodes-là si vous avez besoin. Mais est-ce que toutes les femmes peuvent allaiter des multiples?
Toutes les femmes peuvent allaiter des multiples. Ce qui est sûr, c'est que pour que chacune puisse bien comprendre que notre lactation se crée en fonction de la stimulation. Donc, qu'il y ait un ou deux bébés, ou trois bébés, ou quatre bébés, on va avoir une lactation qui va s'adapter à la production dont l'enfant va avoir besoin. Et chaque enfant va être différent en fonction de son poids, en fonction de sa demande également, et la lactation va être en capacité de pouvoir s'adapter. Il y a aussi une mémoire cellulaire qui va se créer pendant la grossesse et qui va déjà inviter la glande mammaire à produire davantage puisqu'on va baigner dans un bain hormonal qui va être beaucoup plus important en termes de quantité hormonale quand on en a un, quand on en a deux et quand on en a trois et quatre et plus.
Ok, donc c'est un peu comme cette histoire des bêta-HCG qui en début de grossesse sont doublés si jamais on attend des jumeaux. Toute la suite des composantes hormonales va aussi être décuplée et les seins vont plus se préparer finalement parce qu'ils savent qu'il y en a plusieurs à nourrir, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est ça, on va avoir une lactation qui va vraiment s'adapter plus rapidement aussi à la demande et la demande va être plus intense. Donc on va avoir à ce phénomène-là, le deuxième phénomène, qui sera aussi une surstimulation par rapport à quand on n'a qu'un bébé. Quand on a deux bébés, on a beaucoup plus de proximité avec nos bébés parce qu'on a beaucoup plus de demandes, on a des bébés qui réclament davantage, on a deux bouches à nourrir. Donc ça veut dire aussi qu'on a une surstimulation si on prend la différence avec un seul bébé. Donc on a une stimulation supérieure qui va doubler au niveau de la lactation. Donc on va avoir une production qui va augmenter, doubler pour une maman et un bébé qui naît à terme en bonne santé.
Et maintenant, pour ces mamans qui auraient une pathologie au niveau mammaire, par exemple, et qui ne produiraient que 50% des besoins d'un bébé, est-ce qu'elles vont se mettre à produire 50% des besoins, mais pour chaque bébé, ou est-ce qu'elles vont rester sur ces 50% des besoins pour un bébé et que du coup, ça va être, entre guillemets, 25% des besoins pour chaque?
Alors, ça ne sera pas tout à fait du 50% pour chacun des bébés, ça ne sera pas non plus que 50%. Mais si on veut vraiment des chiffres, on peut dire qu'on sera certainement sur quelque chose comme 70, donc on va avoir une augmentation quand même globalement de la production de lait. Si on a un bébé ou si on en a deux, on va avoir une augmentation de la production. Mais on ne va pas non plus avoir du 50 multiplié par 2, c'est-à-dire du 50 pour chacun des bébés. On peut potentiellement croire qu'on va avoir une légère augmentation, mais on ne va pas avoir une optimisation doublée.
D'accord, ok. Donc on restera sur quelque chose de plafonné s'il y a une pathologie mammaire.
Globalement, oui. Là, ce que j'ai envie de te dire par rapport à cela, c'est qu'on est aussi efficace quand on est sur un allaitement mixte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire, si je n'arrive pas à faire un allaitement exclusif, dans ces cas-là, il n'y a aucun intérêt à allaiter des jumeaux et plus. Bien au contraire, on peut passer sur un mixte, on ne s'acharne pas, surtout non plus sur le fait de vouloir absolument optimiser la quantité. Ce qui est souvent le cas, malheureusement, pour avoir travaillé à l'hôpital et en néonat, c'est qu'on va booster ces femmes à vouloir donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait, optimiser, calculer les rations, est-ce que c'est suffisant, etc. On fait ce qu'on peut. On sait aussi que produire du lait, c'est quand on s'hydrate, c'est quand on se repose et quand on est aussi dans un confort maternel avec nos bébés. Et que même si on n'est que sur un allaitement mixte, c'est quand même un allaitement.
Oui, et puis n'oublions pas que plus que jamais, déjà avec un, mais là avec plusieurs bébés, on part quand même sur un marathon et qu'il ne faut pas griller ses forces tout de suite, quoi. C'est quelque chose qui s'opère sur le long cours. Et que si on avait l'aide de ces bébés, peut-être à, je sais pas, moi, 50 ou 70% de leurs besoins, bah, c'est toujours mieux que sur le papier en termes nutritionnels que de pas les allaiter du tout. Donc, voilà. On se met pas trop de pression et on essaie de trouver du temps pour soi, pour se requinquer, quoi. Parce que ce sera à la faveur.
Oui, et on va trouver aussi des tips et des petits moyens mémotechniques pour aussi se rappeler qui a tété, combien de fois a tété, etc. Et puis se dire que si on a besoin de compléments, on pourra en rajouter. On essaie déjà de voir dans un premier temps ce que la glande mammaire est capable de nous fournir, comment nous, on se sent aussi dans cet allaitement. Est-ce qu'on arrive à être confortable? Est-ce que c'est plaisant? Et est-ce que, parce qu'il y a des allaitements de jumeaux et plus pour lesquels ça dure un an, deux ans, et pour lesquels c'est optimisé et c'est même plus confortable pour les mamans. Elles trouvent que c'est un gain de temps et c'est des bébés qui sont parfois aussi très très adaptés et qui se suivent dans leur succion et dans leur tétée, et on a des allaitements qui sont formidables. Donc il n'y a pas, encore une fois, de j'allaite ou j'allaite pas, je suis en mixte ou je suis pas en mixte. Ça peut démarrer sur un allaitement complètement au sein et puis passer par un mixte. Il y a des mamans aussi qui reprennent des lactations pleines, qui reprennent des allaitements exclusifs au moment de la diversification. Donc, pas d'inquiétude. On va essayer ensemble sur ce podcast de trouver comment faire au mieux pour que l'allaitement des jumeaux et plus puisse être confortable et agréable.
Et alors, du coup, quand on entend, par exemple, des mamans de jumeaux dire « Bah non, mais j'avais pas assez de lait pour les deux, etc. » Si je reprends hors pathologie dont on parlait juste avant, toutes les mères sont censées pouvoir produire pour deux bébés. Après, qu'est-ce qui va pouvoir d'autre influer sur justement cette production de lait?
L'entourage familial, l'entourage médical et en même temps le confort et l'état d'esprit de la maman. Une maman qui va avoir eu un troisième trimestre très fatigant, très compliqué avec une prise de poids, de l'œdème, etc., qui arrive à l'accouchement gémellaire dans un état de fatigue extrême. Si on n'a pas un entourage familial à la fois aidant psychologiquement, c'est-à-dire de l'accompagner dans son choix de vouloir l'allaiter et en même temps physiquement, dans le change, dans la prise en charge des bébés autre que dans la nutrition, ça va être plus difficile. Je pense aussi à cet entourage médical qui, en général, par méconnaissance, par manque d'information, vont pousser parfois les mamans à aller vers un allaitement mixte, voire un arrêt de l'allaitement précoce, parce qu'effectivement, ça demande du travail, parce qu'effectivement, c'est une source de stress supplémentaire, mais il faut savoir qu'un allaitement de jumeaux ou pas de jumeaux bien accompagnés, c'est un allaitement réussi, qui fonctionne bien et pour lequel on a quand même alors des résultats sur la santé de la mère, des résultats sur la santé du bébé et aussi un gain de temps si on arrive à trouver des solutions pour pouvoir faire de cet allaitement un moment de plaisir, de réconfort. Et ça peut aussi très bien se passer.
Tout à fait. Et même si ce n'est pas à 100% d'ailleurs.
Et même si ce n'est pas à 100%, exactement, on peut avoir par exemple les tétés du matin et du soir, on peut avoir des tétés avec des compléments, on peut avoir des tétés du matin jusqu'à fin de journée, et puis fin de journée, on mettra des compléments en place, quelques-uns potentiellement un peu la nuit, quand il y a beaucoup de demandes la nuit et que la maman aussi a besoin de se reposer. Ça, on en parlera, mais il y a aussi vraiment besoin que la maman trouve des temps pour elle. Il n'y a pas de mauvais allaitement ou d'exclusif ou non exclusif. Tout type d'allaitement, que ce soit partiel, complet, sont toujours un bénéfice pour la mère et pour les enfants.
Donc, option 1, parce qu'avec les multiples, on sait que voilà, malheureusement, ça arrive quand même assez fréquemment qu'ils arrivent avant terme. Mais parlons de ceux qui arrivent à terme ou quasiment à terme, tu vois, qui, en tout cas, qui n'ont pas besoin de soins en arrivant, qui se gèrent tout seuls. S'ils arrivent en forme, comment on s'y prend pour allaiter des multiples? C'est quoi? À quoi ressemble le quotidien avec eux, que ce soit tout de suite en arrivant à la maternité, et puis une fois qu'on sort, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe bien? C'est quoi les points clés?
En général, les mamans le disent, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui est un petit peu plus impatient que l'autre. Donc, on va surtout pas le laisser patienter. On va partir directement sur celui qui est impatient, qui va stimuler le démarrage de l'allaitement, stimuler la glande mammaire, et qui va commencer à téter. Une fois qu'il est bien positionné, bien en place, soit le deuxième se réveille, auquel cas on va pouvoir positionner le deuxième et faire ce qu'on appelle l'allaitement en symétrie, l'allaitement des deux en même temps. Souvent, c'est ce qu'on préconise pour essayer de gagner du temps, mais parfois ça ne fonctionne pas parce qu'il y en a un qui dort et puis il y en a un qui n'est pas décidé. Mais en tout cas, toujours privilégier celui qui est impatient dans un premier temps et mettre le deuxième, soit quand il le sera décidé, soit en décalé s'il ne réclame pas. S'assurer que les deux aient suffisamment mangé, et on va être quand même malgré tout au démarrage comme pour un bébé seul, unique, c'est-à-dire à la demande. L'avantage qu'il y a, c'est que le fait qu'il y ait un bébé qui pleure, qu'il y ait une montée de lait, le deuxième le sait et ça réveille le deuxième si on est dans une proximité, encore une fois. Donc, bien dormir pas loin de ses bébés, être dans une proximité, pas trop loin, faire du cododo, les avoir avec soi les premières semaines, les premiers mois, comme pour un bébé unique. L'accordage de l'allaitement, c'est 6-8 semaines. Donc, on a besoin aussi d'avoir du temps avec nos bébés et pour mieux les comprendre et pour savoir aussi qui sera le premier à vouloir manger. Et ça ne veut pas dire que le deuxième passe en deuxième et donc est moins aimé, mais simplement, on fera aussi en fonction des caractères différents, en fonction des poids. Il y a des bébés qui vont téter très vite des quantités, des bébés qui vont être plus lents, donc on va peut-être privilégier celui qui va manger très très vite, qui va se rendormir très rapidement, pour avoir plus de temps pour celui qui est un petit peu plus lent et qui a peut-être besoin d'un petit peu plus de réconfort et de sécurité affective. Hein. On l'a déjà dit dans d'autres podcasts, mais l'allaitement, c'est pas que du nourrissage, hein. Il y a aussi 80% d'affectif autour de la nutrition. Si on est bien installé, on en parlera après, mais on peut aussi avoir un deuxième qui s'endort sur le sein pendant qu'on est en train de terminer la deuxième tétée avec le deuxième bébé.
D'accord, ok. Oui, donc à la fois, on met celui qui est le plus impatient au sein en premier, parce que bon, comme ça, lui, il est repu et très bien. À la fois, il faut faire attention à celui qui serait un peu plus faible, c'est ça ?
C'est ça. Le plus faible, en le mettant en deuxième ligne, il va aussi récupérer, on le sait, un peu plus le gras de fin de tétée, donc plus rapidement. Il n'aura pas aussi cette stimulation de cette première éjection qui peut prendre un petit peu du temps. Et le fait que le premier soit déjà passé, qu'il ait stimulé la glande mammaire, qu'il ait stimulé l'hypophyse pour commencer l'éjection du lait, va bénéficier du travail du premier et donc de pouvoir faire moins d'efforts. Donc les bébés par exemple qui ont des troubles de la succion ou des bébés qui ont des différences de poids, on ne va pas forcément mettre le premier, le plus petit à démarrer, mais plutôt en deuxième ligne où il va avoir le gras de fin de tétée et moins d'efforts de succion.
Très bien, à la demande, le plus vaillant d'abord, le plus faible ensuite, mais en fait c'est pour le privilégier en quelque sorte parce qu'il va bénéficier du travail que le premier a fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place dans un quotidien avec des jumeaux, par exemple, pour allaiter sereinement ? Être entourée, j'imagine ?
C'est ça. La maman, elle a un temps qui va être quand même consacré au nourrissage, puisqu'elle ne peut pas déléguer ses temps d'allaitement. Donc, il y a une importance d'être bien accompagnée. Alors là, pour le coup, quand on dit un village, c'est réellement un village. C'est-à-dire qu'il y a la famille, mais il peut y avoir l'entourage, les amis. Il n'est pas sur les premières semaines. Le temps de faire un couscous pour la famille, de faire des grands repas, si c'est elle qui prépare, et tout ce qui est logistique doit être géré. En général, il y a des associations, hein, Jumeaux et Plus, pour ne pas citer, qui est départementale, qui est là aussi pour faire de l'aide ménagère, de l'assistance, j'ai envie de dire, dans l'accompagnement, et aussi dans les soins au bébé, c'est-à-dire le change, le bain, des choses comme ça, pour que la maman puisse aussi avoir du temps pour elle. Par exemple, on peut faire un bain un jour pour l'un, un bain avec l'autre, le jour suivant, pas faire les deux en même temps et pas forcément tous les jours. Et pas faire non plus que le papa qui fait que les bains, parce que des fois les mamans se disent aussi, moi j'ai l'impression de faire que ça, que donner le sein, mais c'est aussi de trouver ensemble une harmonie pour que à la fois il y ait du plaisir dans les tétés, du plaisir à côté sans que ce soit de la charge, parce que la charge de nourrissage est déjà très importante.
Combien de temps ça représente par jour ? Est-ce que c'est vraiment le double ?
Alors, c'est pas vraiment le double. Si on prend certains bébés qui tètent en simultané, pour le coup, on n'est pas du tout sur du double. Il y en a d'autres qui sont un peu en léger décalé. Et il y a des fois dans la journée où il va vraiment y en avoir un qui va se réveiller, qui va téter, et l'autre va se réveiller réellement qu'une heure et demie, deux heures après. On ne peut pas dire qu'on multiplie vraiment les charges, mais toutes les mamans de jumeaux triplés le diront. C'est-à-dire que quand on va acheter une paire de chaussures, si on sait qu'il y en a un qui fait du 24 et du 25, ce qui va être le plus compliqué, c'est de choisir la couleur, la bonne adaptation, etc. Mais une fois qu'on est dans le magasin, on ne prend pas plus de temps, pas deux fois plus de temps. On en prend un petit peu plus, évidemment, hein. Plus on a d'enfants, plus on a quand même du temps à leur consacrer, mais on ne peut pas dire qu'on double le temps.
Est-ce que, tu t'as déjà un petit peu répondu, mais du coup, c'est pas vraiment nécessaire d'essayer de les caler, entre guillemets, pour qu'ils tètent en même temps. Normalement, quand on en met un à téter, c'est très fréquent que le deuxième s'active et qu'il vienne se mettre au sein aussi, c'est ça ?
Exactement. Sans être dans quelque chose de systématique et de vouloir absolument, hein, et ça je pense que c'est important déjà quand on en a un, mais quand on en a deux aussi, de pas se borner à avoir à faire toujours la même chose. On peut réveiller tranquillement le deuxième en se disant j'aimerais bien que les deux soient en simultané, mais parfois ça marche, parfois ça marche pas, et c'est pas grave. L'objectif, c'est de faire un petit peu comme pour l'endormissement, de faire des rituels, des habitudes, et de faire un allaitement dans la même pièce où l'enfant puisse avoir les bruits de son jumeau ou sa jumelle qui est déjà réveillée, d'avoir l'odeur du lait, les battements du cœur de maman pas trop loin pour lui expliquer que ça serait peut-être pas mal de pouvoir faire un petit tir groupé de ce moment d'allaitement. Mais encore une fois, si l'enfant, et ça on le sait tout, hein, à partir du moment où on a un enfant, si l'enfant n'est pas décidé à manger à ce moment-là, ça ne sert à rien de le réveiller, d'essayer absolument. C'est aussi peut-être pas son moment à lui. Et c'est pas parce que c'est le moment pour un que ça sera forcément le moment pour l'autre.
Oui, et puis autant s'il mange qu'il soit efficace, quoi. Parce que s'il est en train de dormir à point fermé et qu'on le met au sein, finalement, il se passera pas grand-chose.
C'est ça. Et puis si on passe une demi-heure à essayer de le faire téter et que quand on le recouche, c'est à ce moment-là qu'il est prêt, on aura vraiment perdu pour le coup une demi-heure à faire autre chose.
Quelle position, du coup, on va venir privilégier pour allaiter les deux en même temps si jamais ils sont d'accord?
Alors, on a beaucoup entendu parler du ballon de rugby parce que c'était plus facile pour les jumeaux, etc. Moi, je parle de moins en moins, voire plus du tout, de position d'allaitement. Alors ça, c'est encore une fois pour citer Suzanne Colson, mais ce qui va être vraiment très, très important pour les jumeaux et plus, c'est le confort de la mère pour qu'elle ne puisse pas avoir le poids des bébés sur elle et que ça soit aussi quelque chose qui puisse se recréer très très régulièrement. Moi souvent je le vois hein, quand je vais en consultation domicile de maman de jumeaux, elles ont un petit coin dédié pour elles dans le salon, un espace du canapé qui est vraiment dédié, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de recréer leur petit nid à chaque fois, elles sont vraiment dans une position confortable où c'est le corps maternel qui va venir porter les enfants et non pas les bras. Il y a même des mamans qui peuvent allaiter dans une manière vraiment très confortable inclinée en arrière, comme le biological naturing, où on va avoir même possiblement presque une main qui va être libre en ayant deux enfants qui têtent en même temps. Bien s'installer au niveau des épaules, au niveau du dos, avec coussins d'allaitement ou des coussins simples hein, aussi, pour pouvoir vraiment être dans une position confortable qu'on sait qu'on va pouvoir réitérer régulièrement et très souvent dans la journée.
Ok, donc on essaie de se trouver la position la plus confortable possible pour pouvoir caler les deux, mais il n'y a pas une position à respecter. C'est vraiment ce qui va être le confort de la maman.
Confort de la maman, et dans le confort de la maman, les enfants vont se positionner dans la manière aussi où ils étaient pendant la vie utérine. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, s'il y en a un qui était en siège et un qui ne l'était pas, va chercher aussi le contact au niveau du siège avec son deuxième jumeau. Ils vont se mettre peut-être tête bêche ou au contraire, ils vont têter face-face. Ça va dépendre aussi de la manière dont la maman est confortable et les enfants vont se sentir confortables à téter. Comme pour tout autre bébé, il va y avoir aussi la succion, le confort de succion. Il y a des positions de bébé qui sont différentes en fonction de l'ouverture de la bouche, de la succion, des tensions cervicales. Je parle à une ostéopathe, il sait mieux que moi que la position du bébé va aussi dépendre de son confort à lui.
Oui, et donc là, dans ces cas-là, c'est dire aux mamans qu'il faut qu'elles observent leur bébé pour voir où est-ce qu'ils sont le plus confort, parce que peut-être que l'un sera très confort sur le sein droit et pas du tout sur le gauche, et inversement.
On va y venir, effectivement, à ce côté-là. Est-ce qu'on met un bébé sur le même sein? Est-ce qu'on l'échange, etc.? Ça va dépendre de la production. On a toujours un sein qui donne plus que l'autre. Donc, un bébé qui est très goulu, avec un réflexe d'éjection fort, va être peut-être plus adapté sur un sein plutôt que l'autre. Un bébé qui a tendance à pas grossir, on va peut-être lui proposer aussi un sein qui est plus rempli, avec un sein qui va donner davantage de lait. Ça va vraiment dépendre de l'enfant, de son confort, de sa succion, de ce qu'il privilégie, de ce qu'il préfère. Si un bébé préfère téter sur un sein, on va l'écouter et on va pas chercher forcément à se dire non, c'est en systématique un sein sur deux et on échange. Il y a des mamans qui font le jour avec un seul sein pour le même bébé. Il y en a qui font une alternance pour chaque bébé. En fait, ce qui est intéressant ces premiers jours-là, c'est d'essayer de comprendre ce qui est plus confortable pour soi et ce qui est confortable pour son bébé. Tiens, mon bébé, ma petite fille, moi, elle préfère téter à droite. Tiens, mon petit garçon, lui, il préfère téter à gauche. Ok, bah ça, c'est un rythme qu'on peut garder. Et on va surtout se mettre des petits pansements avec des petits bracelets, avec des petits nœuds. J'ai des mamans aussi qui se mettent des petits nœuds de couleur sur les bretelles de soutien-gorge pour pouvoir savoir qui a tété quand et sur quel sein, pour pouvoir aussi justement pas avoir la tête et l'esprit à se dire qui a tété, où, quand, combien de temps. Et ça, c'est important pour le coup. De pouvoir arriver à noter pour se rappeler qui tête où, quand, comment et comment c'est le mieux. Après, quand on a perdu le fil, qu'on ne sait pas, on teste. Hein, c'est-à-dire qu'on le met à droite. Si on voit que c'est plus compliqué, on remet à gauche et on ne se pose plus de questions que ça.
J'en profite pour rappeler que quand vos bébés ne sont pas à l'aise d'un côté par rapport à l'autre, il est probable qu'ils souffrent de quelques petites tensions. C'est d'autant plus fréquent chez les multiples qui, évidemment, ont un peu subi la crise du logement à l'intérieur.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi ô combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires, grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu, justement, il est tout doux. En coton bio, certifié GOTS, le tout est dessiné à Biarritz et fabriqué au Portugal. Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kilos de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
L'intérieur du ventre, parce que de la place pour un, c'est déjà pas toujours évident, mais de la place pour deux, on démultiplie les risques d'être tendu. Il y en a souvent un plus tendu que l'autre, il y en a un qui prend toute sa place et puis l'autre qui fait un peu comme il peut. C'est un peu crise du logement là-dedans, donc faites voir vos bébés par des ostéopathes ou des chiropracteurs à la naissance, et même après, c'est des bébés qu'il faut suivre un petit peu pour les libérer de leur tension. Et un allaitement qui se passe moins bien d'un côté que de l'autre est vraiment un signe de tension en général chez les bébés.
Je rajouterais aussi qu'il n'y a pas de un sein pour un bébé, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si ça fonctionne très bien avec une petite fille sur le sein droit et un petit garçon sur le sein gauche, ou le plus gros ou le plus faible, etc., c'est pas grave, ils peuvent aussi avoir chacun leur sein et avoir aussi une évolution de la glande mammaire en fonction de leurs besoins. On n'est pas obligé de faire de la double alternance ou de l'alternance tout court à chaque fois. Ça va vraiment être dépendant des bébés, dépendant du poids des bébés, dépendant de la succion des bébés, du terme des bébés, et le tout dans un confort maternel.
Ok, très bien. Est-ce qu'on s'est tout dit sur, quand ils arrivent à terme, à quoi ressemble le quotidien, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc.
Je pense que oui, je ne sais plus si on a parlé, mais la proximité aussi des bébés pour dormir, avoir un cododo adapté, je pense que s'il y a quelque chose sur lequel on peut mettre un peu d'argent, c'est d'être sûr qu'on ait un lit pas trop loin pour éviter de se lever régulièrement, de les avoir à côté, les faire dormir ensemble aussi, parce qu'ils étaient aussi dans leur logement ensemble, c'était de la colocation, donc il n'y a pas d'intérêt et d'obligation systématique. Moi, je me rappelle en néonat, où on essayait au maximum de les rapprocher, de les faire dormir ensemble, parce qu'ils se sécurisent aussi ensemble. Ça veut dire aussi moins besoin de présence parentale quand on a déjà donné beaucoup sur la journée, quand on sait aussi qu'ils s'apaisent tous les deux, qu'ils s'endorment plus facilement, ça sert à rien d'avoir chacun deux berceaux, chacun deux chambres, etc. Au contraire, favoriser la proximité des deux ou des trois, des quatre.
Il y a des berceaux de cododo pour les jumeaux, c'est ça? C'est pas les mêmes que pour des...
Ouais, ils sont plus grands. Et puis ajuster surtout à la taille du matelas, à la hauteur, pour pas qu'on ait à se lever.
Oui, bien sûr. Vous savez, il y a ces lits de cododo là qui s'ouvrent sur les lits parentaux, ce qui fait que les bébés sont quand même dans leur lit, c'est rassurant rapport aux recommandations, etc. Et en même temps, ils sont juste à côté, il y a qu'à attraper une gigoteuse pour...
C'est ça. Et ils peuvent aussi, tout comme les bébés uniques, et on peut aussi dormir avec ces deux bébés. Si on est sur les normes sécuritaires, pas de matelas, d'oreiller, etc., un matelas bien ferme et pas de couverture, on peut aussi dormir avec ces deux bébés et s'endormir de manière confortable et sécuritaire.
Donc du coup, on a dit, on met le plus impatient, le plus fort en premier parce que finalement, il va aider le deuxième. On allait à la demande. Pendant les 6 à 8 premières semaines, on sait que ça va être très très prenant, enfin comme l'est un allaitement finalement classique, mais là on a deux bébés. Du coup, être très entouré pour pouvoir déléguer au maximum le reste des charges, s'organiser pour peut-être diminuer la charge, comme tu le disais, pour le bain, ne pas faire le bain tous les jours. Et puis d'ailleurs, les bébés n'ont pas vraiment besoin d'être baignés tous les jours, donc ça, y a aucun souci avec ça. Les positions, privilégier vraiment le confort maternel, et regarder son bébé, enfin ses bébés, et les observer pour voir qu'est-ce qui leur convient le mieux. Et proximité, cododo, pour pareil, en fait, essayer de se diminuer au maximum les déplacements, aller dans la chambre d'un tel, puis dans la chambre de truc, etc. Et les rapprocher pour qu'ils s'auto-suffisent tous les deux dans leur sommeil, qu'ils puissent se rassurer au maximum.
Tout à fait. Et tout ça, ça nous permet quoi? De gagner du temps pour la maman, de la liberté, du temps pour elle, et pour éviter de péter un plomb, honnêtement. Parce que quand l'allaitement devient trop compliqué, des fois, on s'acharne, on s'obstine à vouloir absolument les allaiter en exclusif et on s'enferme dans des schémas très, très toxiques parce que, pour soi-même. Hein, parce qu'on va parfois même réussir un allaitement exclusif, mais au risque de notre santé, au risque de notre fatigue, de notre fragilité mentale. Donc, ne pas hésiter. Moi, je dis souvent maman hein, de prendre une heure et demie pour elle, pour qu'il y ait vraiment un temps. C'est-à-dire que les bébés ont mangé. Voilà, il pleure pour autre chose, le ventre, la digestion, le sommeil, etc. Il y a vraiment quelqu'un d'autre qui gère, et ça, c'est pour les jumeaux et plus, c'est vraiment indispensable. On profite aussi quand il y a l'aide ménagère, etc., qu'elle puisse aussi avoir un œil sur les bébés pour que nous, on puisse vraiment déconnecter.
Ouais, ok. Donc, vraiment essayer de trouver comme ça une heure dans la journée pour pouvoir s'extirper un petit peu de tout ça et avoir un temps pour soi.
Si on regarde dans les mammifères et les chatons, hein, les chattes, elles ont plusieurs tétines, plusieurs bébés. Mais quand c'est fini. On entend, moi, je me rappelle quand j'étais plus petite, on entend les bébés miauler dans le panier. Pour autant, la mère, elle est partie dehors, elle est partie s'aérer. Et même s'il pleure, il pleure. Donc, il ne faut pas aussi, et je pense que c'est... Alors, il ne faut pas, c'est facile, hein, mais on a très, très peur aussi dans notre société française, avec cette éducation bienveillante, de laisser nos bébés pleurer. Il faut aussi se dire que parfois, c'est aussi important pour nous de se dire « je prends 5 minutes pour moi pour aller aux toilettes » et il pleure, mais voilà, il n'y a pas d'urgence vitale, on s'assure qu'il n'y a pas d'urgence vitale, mais ce n'est pas grave. Et les jumeaux et plus vont aussi être amenés à pleurer davantage et à s'auto-réguler plus qu'un enfant seul. C'est exactement la même chose pour un deuxième ou pour un troisième enfant, même si ce n'est pas des jumeaux, où on est obligé de multiplier les activités extérieures et on n'est pas complètement dans une préoccupation pour le premier. Et ce n'est pas dramatique à partir du moment où ce n'est pas volontaire, ce n'est pas trop longtemps.
Voilà, et qu'il y a une réponse qui finit par arriver.
Et qu'il y a une réponse qui finit par arriver, exactement. Et donc, ne pas se culpabiliser de se dire « j'ai laissé pleurer le deuxième un quart d'heure parce que j'étais en train de m'occuper du premier qui était pas bien, en train de vomir, etc. » Non, on n'a pas le choix de toute façon.
Oui, il y a un moment où là, c'est... Voilà, on a que demain. Et fonction de l'aide qu'on reçoit, on ne peut pas toujours avoir les bébés dans les bras en même temps sur 100% de leur demande.
Et du même que tu parlais de la crise du logement, ils sont aussi plus adaptés et plus fins. Hein. Les jumeaux aussi développent cette capacité aussi de patience et de vivre ensemble, de pouvoir patienter, de pouvoir partager. C'est vraiment différent. Hein.
Oui, donc on leur fait confiance. En fait, ils savent aussi qu'ils ne sont pas seuls et qu'il faut un peu différer parfois les choses. Ok, en tout cas, oui, n'oubliez pas de faire pipi. Hein. C'est plus important.
Et boire.
Et boire. Option 2. Mes bébés arrivent prématurément, ils ont besoin de soins, etc. Donc, on se retrouve en service de néonatologie et avec des bébés qui nécessitent des soins. Ça va être quoi, là, du coup, qui va se rajouter comme challenge pour allaiter ces bébés?
Alors, si on est vraiment dans un cas de grande prématurité, ce qui est quand même pas si rare chez les multiples, on a quand même pas mal de naissances prématurées, on a le syndrome du transfuseur transfusé, où on a un bébé qui est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus fragile, le plus souvent d'ailleurs, mais en tout cas on a des déséquilibres. L'important dans ces cas-là, c'est ce que je dis aux mamans en consultation, c'est d'avoir vraiment deux rails différents, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la production de la maman en termes de lactation et à la fois l'évolution des bébés. Si c'est des grands prématurés, qu'il n'y aura pas de succion dans les premiers jours, premières semaines, on s'assure d'avoir une production de lait et de stimuler la lactation. Tout comme pour un seul bébé, hein, on ne va pas faire toutes les heures et demie parce qu'on en a deux, mais toutes les 3-4 heures, une stimulation double pompage, massage, expression manuelle, aller voir ses bébés, demander à faire du pot à pot, à les avoir avec nous, avoir des photos, des choses comme ça qui vont permettre de créer un environnement propice à la production de lait sans succion dans un premier temps. Et si on est sur des bébés un peu moins préma, on va de la même manière les mettre le plus possible au sein en ayant peut-être besoin d'exprimer son lait à côté pour pouvoir faire des compléments de lait maternel si les mises au sein ne sont pas suffisamment efficaces.
Et côté bébé, ça c'était côté lactation, côté maman.
Alors, côté bébé, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais quand on a un plus faible, un plus fragile, et quand on a des grosses différences de poids, on va avoir tout intérêt à mettre le plus vaillant au démarrage pour stimuler le deuxième, avoir une lactation qui va arriver plus facilement pour lui et du lait qui va demander moins d'efforts de succion pour en avoir.
Ok, donc ça, c'est un peu le même principe que s'ils n'arrivent pas à terme.
Oui, exactement. La glande mammaire, si on demande souvent pour des problèmes de lactation de faire du double pompage, c'est parce qu'on double stimule aussi la production. Donc, on va avoir un intérêt chez les prémas de faire, quand on dit double pompage, mais c'est aussi de mettre, quand on peut, les deux en même temps en succion, en binôme, pour pouvoir augmenter la production et augmenter la force d'éjection et donc de faciliter le travail des prémas.
Parfait, c'est clair. Donc en fait, on applique ce qu'on a dit dans le point de si les bébés sont à terme, dans un contexte un peu différent où les bébés vont avoir besoin de soins. Et puis là, je vous propose de vous référer à l'épisode 50 qu'on avait tourné avec Céline, où on parle exclusivement de l'allaitement des bébés prématurés, de par son expérience qu'elle a eue dans ce domaine. Donc c'est l'épisode 50, n'hésitez pas à le réécouter, ça fera un tiroir dans cet épisode-là des multiples. C'est quoi la place du mix, en fait, dans ces allaitements? Parce que c'est finalement relativement rare, des mamans qui allaitent des multiples de façon exclusive. Quel intérêt de l'allaitement mixte, donc une partie de lait maternel et une partie de préparation commerciale pour nourrissons dans ces allaitements?
On a tous les bénéfices du lait maternel, qu'on soit en exclusif ou pas en exclusif. On a aussi, on a dit, hein, 80% d'affectif. Donc, il y a aussi cette part d'affection, cette part de nutrition affective par l'allaitement qui est important. On a aussi les hormones de croissance, les anticorps qui seront toujours présents. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est de ne pas se dire que l'allaitement mixte pour les jumeaux est un échec, et même pour un enfant seul, hein, d'ailleurs. Mais c'est un allaitement qui a été mis en place et qui, pour l'instant, fonctionne de cette manière-là. Et ce n'est pas raté, ce n'est pas un échec. C'est mieux que un non-allaitement définitif, et je pense à ça parce que des fois on peut être amené, hein, comme on l'a dit, hein, l'entourage familial est très stressé, il a très peur de cet allaitement-là parce qu'on peut encore moins calculer, surtout quand il y en a deux, on se dit mais déjà un c'est compliqué, donc deux c'est sûr qu'on ne va pas y arriver, alors que ce n'est pas possible, hein. Moi j'ai vraiment des exemples autour de moi où des allaitements qui durent 2 ans, il me semble que tu avais fait un podcast aussi avec une maman qui justement allaitait des jumeaux, des triplés. Donc, c'est tout à fait possible. Mais si on n'y arrive pas parce que c'est fatigant, parce que la glande mammaire n'est pas suffisante, parce que la fatigue, parce que l'entourage, parce que la pression sociale, parce que la pression médicale aussi parfois, on peut toujours faire un allaitement mixte, même si c'est qu'une tétée par jour, 2 tétées par jour, 3 tétées par jour, ou des tétées avec des compléments systématiques derrière. Alors, attention aux systématiques, est-ce qu'il y en a réellement besoin? Si on a réellement besoin, on peut quand même continuer à faire cet allaitement-là et prendre ce plaisir à donner le sein sans être dans une obligation de nutrition complète.
Ouais, je vous invite à écouter l'épisode de Fatim Zahra qui avait allaité ses triplés, c'est le 53, il me semble, j'ai retrouvé tout à l'heure. Et elle explique comment elle s'était un peu perdue dans cet allaitement, comment elle profitait même plus de ses bébés, tout ça, comment elle en est un peu revenue pour laisser place au mixte qui lui a permis de les allaiter quand même pendant 7 mois. Et voilà, je trouvais que cet épisode, il était assez riche d'enseignements, donc n'hésitez pas à l'écouter, épisode 53.
Pas d'acharnement dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire pas d'acharnement à vouloir absolument ne pas allaiter du tout parce que de toute façon, ça va être compliqué. Et à l'inverse, ne pas s'acharner, on va absolument faire un allaitement maternel exclusif de jumeaux et se mettre des challenges pour lesquels, parfois, il n'y a pas d'intérêt et il y a des risques aussi pour notre santé mentale. Et on n'oublie pas nos vagues hormonales qui sont là aussi, le baby blues, tout est aussi présent et nous fait peur aussi dans cet allaitement et dans cette préoccupation que ça nous demande. Donc il y a des fois où on va se dire ça va le faire et il y a des fois où on va se dire ça va pas le faire et on accueille aussi ces vagues-là. Et quand ça le fait pas, ça le fait pas. On peut tout à fait se dire bah, je préfère donner un complément et ça me rassure. C'est OK.
Oui, et puis n'oublions pas que voilà, on parle là spécifiquement de l'allaitement des multiples, donc jumeaux, triplés, etc. Mais que ces allaitements-là ne sont pas exempts de problèmes de bébés qui ont des problèmes de succion, comme tu le disais, d'une maman en effet qui fait un baby blues un peu cogné, voire une dépression du postpartum, par exemple d'un accouchement qui se passe pas bien, par exemple, enfin voilà, de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur un allaitement classique. Et si ça vient se surajouter x2, bon bah c'est évident que on démultiplie un petit peu les soucis et que c'est pas la voie la plus simple pour allaiter de façon exclusive. Mais n'oubliez jamais ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, si votre allaitement pose problème, pensez à vous faire accompagner. En parlant d'accompagnement, Est-ce qu'il y a des pros qui sont spécifiquement formés à l'accompagnement de l'allaitement des multiples, ou est-ce que pour ça, on peut choisir n'importe quelle consultante en lactation? Est-ce que ça fait partie de vos formations de base?
Alors, ça fait partie de nos formations de base. On a vraiment tout un module sur l'allaitement de jumeaux et plus. Après, ça va dépendre aussi de nos expériences personnelles, professionnelles. Moi, j'ai travaillé 10 ans en néonat. On sait qu'en termes de pourcentage, les bébés de jumeaux et plus sont quand même le plus souvent nés avec une certaine prématurité. Je pense que c'est important aussi de regarder le CV entre guillemets des consultantes en lactation et de savoir si elles sont un petit peu renseignées, expérimentées sur le sujet.
Est-ce qu'on a précisé tout à l'heure, tu nous disais, toutes les femmes peuvent allaiter des jumeaux. Si on va au-delà de 2 bébés, 3 à 4 bébés, bon, et après les grossesses encore plus exceptionnelles, est-ce que malgré tout, là, sur une maman qui a une lactation normale, est-ce qu'il y a un moment où quand même on plafonne en tant qu'être humain par rapport au nombre de bébés?
Alors, on a déjà vu des allaitements triplés exclusifs jusqu'à 2 ans et plus. On a vu des allaitements exclusifs sur des quadruplés sur la première année. Je n'ai pas d'expérience sur du plus. Après, comme tu le disais très bien en tout début de podcast, on a 2 seins. Donc, on peut imaginer doubler la mise sur les 2, mais je pense qu'au-delà de 4, ça peut me sembler être un peu compliqué. Après, on a des hyperlactations physiologiques qui, dans ce cas-là, vont être plutôt bénéfiques.
Ouais, fonction des capacités aussi de chaque mère et des types de production de lait qu'on a. Tu parlais tout à l'heure d'associations qui sont spécialisées donc dans l'accompagnement des jumeaux. Est-ce que tu peux nous redonner leur nom ici?
Alors, il y a l'association Jumeaux et Plus, que vous allez retrouver dans chacun de vos départements. Après, il suffit aussi de regarder tout simplement sur Internet, mais là, ils vont vous donner aussi des tips, et puis surtout aussi sur tout ce qui est achat de matériel en double, et puis en aide, association avec des personnes qui peuvent venir vous aider dans le quotidien et dans les tâches et dans la cuisine, ou des femmes qui peuvent venir. Il y a beaucoup de bénévolat dans cette dimension-là. Multiples et Compagnie, qui est aussi une association dans le même type et qui sont aussi des aidants dans les difficultés, parce que souvent, c'est des mamans qui ont déjà eu elles-mêmes des expériences de jumeaux et plus, et donc qui vont aussi pouvoir donner leur propre expérience. Et rien que d'échanger avec des gens qui connaissent très bien le sujet, au-delà de professionnels de santé, c'est aussi très, très important. Et pour les papas, parce qu'on ne parle pas des papas qui peuvent aussi être très, très perturbés par l'arrivée des jumeaux et plus en allaitement par-dessus, où ils se sentent à la fois débordés par les tâches ménagères et en même temps frustrés de ne pas être dans une alimentation et dans un maternage proximal, de parler avec d'autres pères et de voir comment ils peuvent aussi accompagner les mamans dans la mise en place de l'allaitement, dans le câlin ou le rôde après tété, etc. Et aussi peuvent prendre les deux en même temps. Souvent, les papas nous disent, mais moi, est-ce que je peux prendre les deux en même temps? Mais bien sûr, le portage, ça, c'est, il n'y a pas de mystère. Hein. Là, on va être dans le portage, écharpe de portage sling, ça va être le best pour à la fois les déplacements et en même temps pour tout ce qui est transit, row, etc. On les a avec nous et en même temps, on a nos deux mains libres pour pouvoir s'occuper, échanger potentiellement de deuxième. C'est vraiment la clé de la gémellité.
Ok, très bien. Donc comme ça vous fait 2 ressources que vous pouvez contacter, qui sont dispo par département et que vous pouvez contacter pour vous venir en aide. Plus que jamais que les pères et les deuxièmes parents en général prennent leur congé paternité, enfin voilà, qu'on puisse optimiser tout ça pour être auprès de vous en tant que maman et de vous accompagner dans cette période-là. Les belles-mères, tout ça, si elles sont sympas, sont les bienvenues. Les mères, les tantes, les sœurs, enfin, voilà, tout ce que vous voulez pour être vraiment très entourée. On sait que le postpartum est déjà une période délicate. Avec 2 bébés, ça la rend plus délicate aussi. C'est sur un temps donné, c'est pas non plus facile quand on les enchaîne à 2 ans d'écart, les bébés. Enfin voilà, c'est d'autres problématiques. Dites-vous que, en tout cas, celle-ci est la vôtre. Faites-vous accompagner, ça va être rush pendant un moment, mais tout est possible et surtout prenez soin de votre santé mentale.
Oui, et on n'hésite pas, pareil, à anticiper sur les repas ou à se faire livrer des repas et voilà, et le linge attendra et. Et le ménage aussi. Voilà, je pense qu'il y a un gros lâcher prise à partir du moment où on a des enfants et qui plus est quand il y en a 2 qui arrivent en même temps. Il y a un gros lâcher prise sur ce qui n'est pas vital et comme tu disais, se pencher déjà sur son bien-être à soi, sa santé mentale, à nous, à nos bébés et à notre couple, c'est la priorité.
Ouais, ça viendra se répercuter sur le bien-être de tout le monde autour. Ok, bah parfait. Merci Céline pour toutes ces infos. Est-ce qu'on s'est tout dit?
Bah écoute, je pense. Sujet toujours très intéressant.
Voilà, si vous avez des petites expériences vous avez allaité des jumeaux, vous avez quelqu'un autour de vous qui a allaité des jumeaux, n'hésitez pas à lui dire de laisser un petit message sur la boîte vocale de Milkshaker. Souvenez-vous, vous pouvez déposer des vocaux en allant sur le site et il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Et voilà. Et puis si on en a plusieurs, on pourra en faire un petit combo pour apporter différentes expériences et puis peut-être les tips qui ont marché chez vous, comment vous vous êtes organisé pour que ça roule au mieux.
Exactement. Et n'oublions pas aussi que l'allaitement, c'est pas que du temps perdu, c'est aussi du temps en plus. Et souvent, c'est de la rapidité finalement, si on compare avec le nombre de biberons, le nombre de boîtes de lait, le nombre de packs d'eau achetés, le nettoyage, etc. Il y a aussi des avantages à allaiter des jumeaux et plus.
Et ouais, quand ça se passe bien, c'est plutôt un gain de temps que l'inverse, en effet. Ok, merci Céline. À très bientôt dans Milkshaker.
À très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker, où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe me, I'm freaking.